pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes fêtent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffe les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e et pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Alors autour de la table, nous avons du monde. Il y a Arthur et...
Salut tout le monde.
Arthur.
Salut tout le monde.
Alex.
Salut à tous.
On a Serge au bocal.
Salut.
Accompagné de Greg.
Salut.
Sylvia qui vous salue. Et du coup, je renvoie la balle à Alex pour qu'il vous donne le déroulé de l'émission, car il le fait tellement bien.
Ouais, et peut-être déjà pour commencer, rappeler que s'il y a des prisonniers, prisonnières ou des proches qui veulent nous appeler en direct pendant l'émission, c'est le 01 40 05 06 10. Et si vous voulez nous appeler le reste de la semaine, c'est au 07 52 40 22 48.
Excuse-moi, tu étais où en début d'émission ? Parce que j'ai donné le numéro.
Le portable.
Non. Ouais.
Et bref, et du coup, pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. Et aujourd'hui, on voulait d'abord revenir sur un témoignage qui est sorti de la prison pour sans-papiers de Toulouse, dont on a déjà ici pas mal parlé pendant des révoltes qui ont eu lieu ces derniers mois. On aura aussi un appel juste après d'une proche de quelqu'un qui s'est fait assassiner par la police il y a maintenant presque 2 ans, pendant l'acte 3 des Gilets jaunes. Après, on va revenir un peu sur Perpignan, la suite, et donner des nouvelles. On va parler des collines Noël, donner des nouvelles de l'infâme, d'Abderrazak, et parler de l'appel à la manif pour demain, raconter un peu comment ça se passe sur les questions de la loi sécurité globale, dont on avait déjà parlé beaucoup plus il y a 3 émissions de ça, si je ne dis pas de conneries. Et donc, pour commencer, on va vous lire un témoignage qui a été... sorti par un collectif qui se bat à Toulouse contre les centres de rétention et qui est en lien avec les prisonniers et prisonnières de là-bas. On commence donc par un témoignage qui se trouve sur toulouseantikra.noblog.org et puis on revient.
Je suis au CRA depuis presque un mois. Je dois passer au JLD la semaine prochaine. L'OFPRA a fait un rejet de ma demande d'asile politique. Après, j'ai eu le rejet de la CNDA, puis l'OQTF. J'ai été contrôlé et je me suis retrouvé ici. Après le rejet de la CNDA, j'ai voulu faire une demande de réexamen à l'OFPRA, mais c'est pas possible pour moi. Je suis parti parce que j'étais recherché et j'ai risqué ma vie en restant au pays. Ma famille et mes amis sont eux-mêmes en danger s'ils disent qu'ils savent que je suis en France. Alors, si en plus ils font des recherches pour obtenir des nouvelles preuves, des menaces contre moi, c'est encore plus dangereux pour eux. C'est les condamner deux fois. Je peux pas leur demander ça. Alors j'attends au CRA. Je pensais pas qu'un endroit pareil existe en France. C'est tendu, très tendu. La semaine dernière, il y a eu un désaccord entre un retenu et un policier. Le policier lui a dit « Attends, on va dans un endroit où il n'y a pas de caméra pour régler ça et je vais tout te faire ». Ça s'est ensuite mal passé. On n'y était pas, mais au résultat, le retenu a été mis en garde à vue. Le flic avait porté plainte contre lui. J'y crois pas. Faut voir comment il nous parle. Heureusement, la plainte n'a pas été retenue et le retenu est revenu au CRA. C'est pour dire que c'est vraiment tendu. En plus, il n'y a vraiment rien à faire ici. On ne peut même pas sortir dans la cour à cause des travaux. Il n'y a que la télé, pas de journaux, pas d'internet. Même limité, pas d'informations qu'on peut choisir. C'est pire qu'une prison, rien d'autre. Il y a bien la CIMAD dans le CRA, mais elle fait rien pour ça. Elle respecte le protocole. Elle n'est pas un organe de lutte. Elle nous assiste un minimum pour les dossiers, pour un minimum de dignité juridique, mais c'est tout. À cause du cluster Covid qu'il y a au CRA de Bordeaux, les policiers nous ont dit qu'ils allaient tous tester. On a tous refusé. J'ai dit au policier que je voulais m'entretenir avec mon médecin traitant pour en discuter avec lui. C'est un droit. C'est lui qui coordonne tous mes soins. Je ne suis pas en prison. Ils n'ont pas insisté. Je suis tombé du ciel ou quoi. Ici, tu perds toute ta dignité. J'avais entendu parler des CRA, mais jamais je pouvais imaginer que c'était comme ça à l'intérieur. En rentrant au CRA, tu passes d'un coup d'une zone de droit à une zone de non-droit.
Ouais, peut-être déjà pour commencer par expliquer quelques termes qu'il y a dans ce témoignage. L'OFPRA, c'est l'endroit où les gens qui arrivent vont faire leur demande d'asile, là où ils sont entendus. La CNDA, c'est la Cour nationale d'appel du droit d'asile, enfin de ceux qui font l'asile. Ça, c'est à Montreuil, d'ailleurs, si je dis pas de conneries, la CNDA. Un CRA, donc, c'est les prisons pour sans-papiers. Et quand il parlait de la CIMAD, c'est les associations qui sont présentes dans les centres de rétention, soi-disant pour faire respecter la loi. En vrai, elles font beaucoup de soutien juridique pour toutes les démarches, etc. Mais ici, on en a souvent parlé de la CIMAD qui relaye pas, qui soutient pas les luttes, qui, en fait, invisibilise les violences policières, le racisme à l'intérieur. Voir pour la CIMAD de Toulouse qui a quand même parlé d'une grève symbolique de la faim quand il y a pas mal de prisonniers et prisonnières qui sont mis en grève de la faim il y a quelques semaines quoi. Et du coup voilà, pour resituer un peu les différents acteurs. Et il y a... Ouais.
Et le truc dit bien, enfin que raconte ce témoignage, donc là c'est cette histoire de ce gars là qui se fait kébar par le keuf qui dit ah, on va aller à l'endroit où il n'y a pas de caméra. Et ça, c'est, bon, après, il dit, lui, il sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a le keuf qui a porté plainte, nanana. En fait, c'est une histoire qu'on entend très bien. Donc, nous, on sait très bien ce qui s'est passé parce que, par exemple, à Vincennes, il y a le coffre où il n'y a pas de caméra, où on emmène les gens pour les taper. Et une fois qu'on les a bien tapés, ben, on porte plainte contre eux pour agression, violence ou je sais pas quoi. Et, et c'est ce qui fait que la personne va fermer sa gueule derrière au retour au CRA. Et ça, donc, du coup, on sait très bien, du coup, ce qui se passe.
Ouais, la personne ou les autres prisonniers en fait, parce que c'est la même chose qu'avec le mitard, on en a souvent parlé, hein, des équipes de maton ici au mitard qui mettent particulièrement la pression, qui sont plus violentes que les équipes de maton en bâtiment. Il y a à la fois la question du fait que voilà, là ils sont en supériorité numérique assez claire et qu'il n'y a pas de caméra, etc. Mais c'est aussi des gros messages que t'envoies au reste des prisonniers et prisonnières quand il y a quelqu'un qui remonte et qui s'est fait défoncer la gueule quoi. Quand il y a une équipe de maton qui s'appelle Escadron de la mort ou quoi, en fait c'est une vraie pression, c'était le cas à Seyss, c'est une vraie pression pour tous les prisonniers qui pourraient vouloir se révolter, de finir au mitard là-bas et d'être dans les mains de cet escadron quoi. Et du coup c'est la même chose en fait, tu parlais du coffre, c'est l'endroit où on peut récupérer ses affaires au centre de rétention de Vincennes, c'est l'équivalent de la fouille, donc c'est là où les gens ils peuvent accéder s'il y a des clopes en plus, etc. Et donc c'est une zone sans caméra où les flics tabassent hyper régulièrement des gens quoi.
Et puis il y a un truc qui est chelou dans cette histoire, c'est que la plainte du keuf elle n'a pas été acceptée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le keuf en fait il a raconté n'importe quoi, on le sait comme toujours. Le keuf il a été inquiété pour faute en écriture publique, pour dénonciation calomnieuse, ce genre de truc.
Après, non, voilà, on relaye juste le.
Ouais, non, mais c'est pas pour dire. C'est juste pour dire, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et comme d'hab, en fait, c'est toujours le même truc. Enfin, on en a parlé ces derniers temps et tout ça sur les violences. Voilà, là, dénonciation de nimp d'un keuf. Et comme d'hab, en fait, lui, il s'en sort bien. Donc, en fait, ils leur font, il n'y a pas de souci. Et voilà, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est que du coup, là, ce coup-là, c'est pas passé. Mais par contre, en fait, à la fin du témoignage, ça parle des tests Covid qui sont proposés aux prisonniers et que les keufs sont en train de faire. Et en fait, ce truc-là, on en a aussi beaucoup parlé. C'est un nouvel outil de répression à l'intérieur parce qu'à partir du moment où tu refuses un test Covid qui aurait pu permettre ou faciliter l'expulsion du prisonnier, en fait, ça veut dire qu'il y a un délit qui est fourre-tout qui permet de réprimer tout ce qui se passe à l'intérieur, qui refuse de se substituer, enfin, refuse de se soumettre à une mesure d'éloignement. Et ça en fait partie. Les gens peuvent prendre jusqu'à 3 ans de prison. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des interdictions de territoire, donc des trucs qui t'empêchent d'avoir des titres de séjour par la suite de manière définitive ou jusqu'à ce que tu te fasses expulser dans un autre pays. Et ça, c'est un truc qui a... Donc voilà, en fait,
la seule raison d'un refus de test.
Le truc, c'est qu'ils demandent... Enfin, moi, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, les consulats demandent un test négatif pour autoriser l'expulsion. Et donc, en fait... Le refus, c'est considéré donc à ce moment-là comme un geste qui entrave le truc, quoi. Mais c'est aberrant. Il y a tous les moyens de lutte, en fait, qu'il y avait à l'intérieur des CRA, voilà, qui ont été réprimés de cette manière-là, en fait, par, comme tu le dis, une loi qui est fourre-tout. Et donc là, en fait, il y avait un nouveau moyen de lutte, enfin, qui n'est même pas nécessairement un moyen de lutte, parce qu'en fait, tu te retrouves à être après derrière enfermé dans un putain de centre complètement isolé, enfin, c'est l'enfer, quoi. Et c'est énorme, quoi.
Ouais, et en fait, le truc, c'est que du coup, le fait qu'ils proposent ces tests-là à tout le monde, c'est offrir des outils de répression là pour les keufs. Si le gars, ils n'ont pas réussi à l'avoir là avec la plainte parce qu'elle devait être trop mal écrite ou on ne sait pas c'est quoi le délire, en tout cas, ils auront sûrement d'autres moyens de pouvoir le réprimer. Si ce n'est pas maintenant, ce sera au 90e jour quand il va sortir. En tout cas, on sait que voilà, à l'intérieur des CRA, en dehors de la répression arbitraire, de la violence et tout, ils ont voilà les outils pour essayer d'envoyer les gens en taule, en HP ou quoi que ce soit, quoi.
Ouais, et juste pour, par rapport à faire le lien avec tous les débats qui sont en ce moment à l'extérieur, c'est que... Bah là, on le dit bien, ils vont à des endroits où il n'y a pas de caméra en CRA, et en CRA, c'est aussi un des trucs qui est un peu comme la prison, c'est que tu n'as pas le droit de filmer. Enfin, les gens ont le droit au téléphone, à la différence de la prison, mais en fait, c'est vraiment réprimé de pouvoir...
Ils ont le droit au téléphone, mais pas qu'ils filment, en fait.
Voilà, pas qu'ils filment. Et à chaque fois qu'il y a un téléphone avec une caméra qui rentre, et ben, il y a des fouilles intégrales, et les flics les cherchent vraiment pour éviter en fait, qu'il y ait des images qui sortent. Et clairement, c'est des endroits où il n'y aura pas d'image de ce qui se passe à l'intérieur.
On passe un coup de zik ?
Ouais.
On m'a toujours dit de pas attendre d'être sur écoute pour raccrocher. Pas encore adulte, j'avais déjà trop de choses à me reprocher. Pierre Alain, je tu ne connaissais pas le mot business. J'étais déjà sur le chemin qui foire, si tu foires en foire. Est-ce comme ça que j'imaginais la vie, hein? Est-ce comme ça qu'on imaginait nos vies? Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Mais dans cette rue où on se poignarde entre rivales, où le genre divise les clans, où même les grands crèvent la dalle. Deal vol, prix, alors si le deal vaut la chandelle, pourquoi pas péter le secteur sans perdre de vue le ciel. Tous ceux qui nous regardent admirent le bordel qu'on fait, et qui peut nous en empêcher, même les saints rêvent de pécher. Mais stop, stop, on n'a pas tous des parents riches pour nous repêcher. Faute de caillasse, faut être malin, faut être dur, faute de câlin, petit lard. Vidure trop tôt, et le trottoir pour trotter, se frotter. Au bitume et fauter, immanquablement. Regarder la vie en face demande du courage ou beaucoup de rage. Être sous, être sage, être fou à un âge où de toute façon la partie est jouée. Trop tard pour déjouer les pièges que la vie tend à ceux qui veulent avec elle jouer, ouais. J'aimerais écrire des trucs gays, mais mon stylo pleure sans cesse. Mes faces font pleurer les vieux comme une triste messe. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. On n'a pas tous le même but dans la vie, hein. La vivre c'est déjà bien, mais survivre dans ce monde en dérive c'est encore mieux. Alors à chacun son jeu, à chacun ses atouts. Et si t'as l'oseille et ben t'as tout. Tu tâteras le dernier Audi. On dit tu tâteras aussi la belle vie. Mais si t'as rien, t'auras plus de frein et plus rien qui te retient. On veut tous des sous sans suer, des coups sans se tuer avant que la pauvreté nous envahisse. De ces vices, fils, on défait, on glisse. Ah, on vit de vice et d'eau fraîche, de la fraîche pour mes sauces et de l'eau pour éteindre les feux dans la fosse. Là, c'est de jouer l'agneau dans une fable lougère et où la morale est si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Ah. Les générations sont plus sur les mêmes longueurs d'onde, hein. Les miens ont pour modèle des fous que plus personne ne gronde. Un grain de café, ça craint de taffer ou de cracher sur un billet vite fait. Moralité, ah, chacun fait ce qui lui plaît.
Ce qui lui plaît,
non, non, plutôt ce qui lui rapporte. À quoi ça sert de gagner les clés vues, ici y a pas de porte. Ça préfère encore pipi au coin là-bas, ça rapporte plus en attendant d'avoir l'occasion de péter la poisse en mode versus. Donc risquer sa peau, faire caler sans gloire, mourir en toute connaissance de cause, faute de vivre sans le savoir. Les lois sont mal faites, elles ne protègent plus ma graisse. Bien plus que tous les pites élevés dans des caves de test. Monsieur le juge, j'ai fait ce que tout le monde fait pour que ça fasse. J'ai juste marché sur les traces de ceux qui nous servaient d'exemple à suivre. Alors merde si ça merde, j'ai pas appris la vie dans un livre. Monsieur le juge, monsieur le juge, quartier mineur, quartier majeur, quartier femme, gardez le moral, gardez la flamme. À tous les détenus incarcérés, gardez la pêche,
gardez la pêche, gardez la pêche.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 ou au Alex au 07
52 40 22 48.
Alors, vous venez d'écouter Barreau Syntax et DJ Godzi. Alors, je le dis parce que je suis fan, je suis obligée de, et puis c'est mon poteau, donc je suis obligée de le dire. Mais nous avons quelqu'un en ligne, nous avons Milfette. Je ne sais pas si je me trompe sur ton prénom. Allô, allô.
Bonsoir.
Bonsoir Milfette, c'est bien, ça, je le prononce bien ?
Oui, très bien,
ah,
c'est
cool.
Milfette, ouais.
Tu veux te présenter ou tu veux que je le fasse ?
Bon, allez-y.
Alors, tu es la fille de Zined Redouane.
Zineb
Redouane. Alors, ça se passe en fait déjà à l'acte 3 des Gilets jaunes sur Marseille.
Oui.
C'est ça. Nous sommes le 1er décembre. Ta maman est à sa fenêtre pour fermer ses volets et une... après une... comment on dit, après une...
Il y a une grenade lacrymogène qui va être envoyée directement sur elle
par les
chefs qui sont en bas en train de réprimer la manif de Gilets jaunes.
Voilà, au quatrième étage de cet immeuble. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire en priorité ?
Il m'atteint directement sur le visage. Et
Ce qui est très important, qui est atteint, et ça m'a beaucoup rappelé les tirs de flashball qui sont souvent visés dans les yeux ou dans les visages. Et c'est quand même une drôle de coïncidence. Voilà.
Voilà.
Je tenais aussi à le dire. Est-ce que... alors, il y a eu des expertises, bien évidemment. Il y a eu des études balistiques, il y a eu des vidéos il y a eu des vidéos qui ont contré la version donnée par ces cinq policiers qui nient en bloc être coupables de cet assassinat.
Voilà.
Parce que ta maman
une nouvelle expertise qui vient démentir la première expertise, on va dire. Voilà.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une première expertise officielle, la publique, où ils n'ont pas été capables, il me semble, de dire quel flic avait tiré, et où ils ont dit, oui, on a très bien tiré, on a tiré en cloche, comme c'est le règlement.
C'est pas qu'ils n'ont pas été capables, c'est qu'ils ont refusé de dire. Enfin,
oui, mais ils ont fait genre, ils n'étaient pas capables de
dire. Ils ont nié à bloc, complètement. Pour moi, ils ont menti à bloc. Quand on voit ces caméras, quand on voit la caméra, parce qu'il y a une vidéo qui est sur YouTube qu'on peut vérifier, où on voit des flashs de cette caméra où il y a eu des... l'analyse qui a été faite. Et on voit clairement ce policier, et l'heure est même précisée, lever l'arme et tirer en direction de cet immeuble.
Exactement. Et avec la collaboration de Disclose et de Forens Architecture, que je remercie d'alors pour leur collaboration avec nous. Et on a pu prouver que ma mère avait raison quand elle a dit qu'il m'a visé.
Parce qu'elle était au téléphone avec
oui,
eux.
À ce moment-là, elle était en téléphone avec moi. Et j'ai assisté au tir en direct, on va dire.
Et donc là, elle te dit, en fait, ils viennent de me viser dessus.
Voilà, elle m'a dit qu'il vient de tirer sur moi. Après, elle m'a raconté les détails le lendemain parce qu'elle a été hospitalisée. Et le lendemain, on a pu la voir par téléphone grâce à son ami, Imen. Et voilà, elle nous a raconté tous les détails. Et elle était convaincue qu'il l'a visé parce qu'elle l'a vu quand il l'a regardé. Il a mis son arme envers elle et il l'a visé.
Parce que c'est ça tout le truc qui a été. Parce que là, on ne l'a pas encore raconté, mais directement, tout le ministre de l'Intérieur et tout ça ont commencé à raconter plein de mensonges. Enfin, il y a plein d'histoires sur la procédure judiciaire. On y reviendra peut-être après, mais directement, ils ont commencé à raconter n'importe quoi sur ce qui s'est passé. Alors que toi, tu savais directement ce qui s'était passé, parce qu'il y a ta mère qui te l'a raconté.
Oui, bien sûr. Et j'étais en direct et j'ai assisté à tout. Et c'est pour ça...
Il faut rappeler que ta maman avait 80 ans quand même. Elle était, on le redit, au quatrième étage lors de l'acte 3 des Gilets jaunes. Alors, les policiers décident de charger, les CRS ont ordre de charger sur les Gilets jaunes. Ils ont pas, l'arme n'a pas à être levée en direction de cet immeuble, en vrai. Les gens sont chez eux, ils n'ont pas à être. Et c'est là où ça pose problème aussi.
Oui, bien sûr. C'est pour ça, je le dis dès le début, que cette drame, est, par la suite, s'est transformé en scandale.
Bien sûr.
Voilà, elle s'est transformée en scandale. Bon, premièrement, le premier scandale, c'est un scandale d'État pour moi. Mmh. Le premier scandale, c'est les déclarations de M. Trabeux, qui a dit que Zineb est morte d'un choc opératoire le lendemain de son décès.
Donc ça, c'est le procureur.
Voilà. Sans dire les circonstances qui ont conduit ma mère à l'hôpital. Deuxièmement, il y a l'ex-ministre M. Castaner qui affirme par la suite les déclarations de M. Trabeux, alors qu'il y a une enquête qui était ouverte, qui était en cours. On voit une contradiction en disant la police n'a pas tué Zineb, il n'a pas accès à l'enquête en même temps. Voilà. Après, on va dire, il y a le second scandale, le refus des CRS de remettre les armes pour les GPN, pour l'expertise.
C'est très, très grave.
Voilà, sans aucune réaction. Sans aucune réaction. Pour moi, c'est un affrontement et c'est une désobéissance. Désobéissance à la loi.
Complètement d'accord.
Aujourd'hui, on vient de savoir que c'était sous un ordre direct de l'ex-ministre de l'Intérieur. Cette information m'a permis de comprendre le silence du GPN à l'époque. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a porté plainte pour altération et soustraction de preuves.
Mm. Là, c'est après, la plainte que vous avez déposée contre... c'est la plainte que vous venez de déposer contre Castaner à la Cour de la justice, c'est ça?
Exactement, oui. Et puis on trouve un second scandale qui suit, c'est la déclaration du président de la République qui a ajouté de l'huile sur le feu, comme on dit, en disant qu'il n'y a eu aucun mort pendant les manifestations des Gilets jaunes. Voilà, en décrivant ça comme un miracle, en ignorant la mort de ma mère décédée hors le troisième acte des Gilets jaunes.
C'est complètement irrespectueux.
Voilà. On a eu, je signale qu'on n'a eu
mot du président.
Condoléances, aucun mot, aucune considération. Après, un autre scandale, l'infraction de l'appartement Sociali et disparition de la scène du crime dans un silence malgré les plaintes portées.
Alors, attends, parce que moi, j'ai jamais vu. Donc, l'appartement était sous scellé.
L'appartement était sous scellé parce que la grenade qui a touché la tête, mais qui a explosé à l'intérieur de l'appartement. ou d'ailleurs sur cette vidéo que je vous parle, des photos que toi t'as fournies, c'est bien ces photos-là que t'as fournies, non ?
Oui.
Ouais, ou justement.
On a pu le lendemain, avant que l'appartement soit scellé, on a pu prendre quelques photos.
Et donc, ils ont cassé les scellés ?
Ils ont cassé les scellés en mois de janvier. Et moi, j'ai déposé plusieurs demandes pour avoir accès à l'appartement de ma mère et pour récupérer ses objets personnels et tout. Mais j'ai toujours reçu le refus. En me disant toujours que c'est une scène de crime et on en a besoin dans l'enquête.
Ouais, donc ils se permettent de casser le truc et toi, te partrendre tes affaires en justifiant le fait de sceller. C'est, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est la même chose avec Awa qui s'est battue à Rennes, où ils ont détruit l'arme du crime en justifiant une erreur dans les scellés, quoi.
Wissam, pareil, des scellés ont disparu.
C'est hallucinant à chaque fois, quoi. Ouais. À chaque fois. Enfin, c'est
d'autant plus... Dis-moi.
Non, mais je crois qu'il y avait encore aussi un autre truc, c'est que le juge d'instruction, ou en tout cas, il y avait un des juges qui était du côté des policiers pendant l'acte 3 aussi.
C'était, je crois, le procureur, Monsieur Reeves. Monsieur Reeves.
Donc le gars, il faisait la manif du côté des CRS ce jour-là.
Voilà.
Et c'était lui.
Et puis l'affaire, elle lui a été confiée. Il n'a rien dit, il n'a rien signalé. Et c'est sur cela qu'on s'est appuyé pour demander le dépaysement.
Ouais. Et c'est c'est vraiment une histoire de ouf sur comment la justice en fait traite. Enfin voilà, c'est un truc qu'on voit partout. Enfin à chaque fois qu'il y a des meurtres policiers, à chaque fois ils font en sorte de complètement fausser les plaintes et puis de pas faire une instruction à peu près correcte, quoi.
Mais là ils font même pas semblant, quoi.
Là ils y vont franco. Alors il faut savoir que Zineb Redouane avait sa famille est en Algérie et que heureusement elle avait des amis en France qui aident beaucoup, qui vous aident beaucoup.
Oui, heureusement qu'elle avait son ami intime à côté, à Marseille, qui habite à Marseille, qui est allé la voir, qui s'est occupé de tout. Et puis il y a le grand scandale qui a suivi le décès de ma mère. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant? Mais après la mort de ma mère, on a refusé le rapatriement du corps. Ils ont ordonné d'inhumer le corps, mais pas le rapatriement. On n'a pu rapatrier ma mère qu'après 25 jours, après son décès. Voilà. Et je me souviens, à l'époque, je me suis adressée vers le juge qui était en charge, par une lettre dans un cadre humain, et je lui ai demandé directement de m'accorder la dernière... pour la dernière fois, de réaliser la volonté de ma mère d'être inhumée
en Algérie.
En Algérie, dans la même tombe de mon frère qui est décédé. Et je la remercie de répondre de suite et donner l'ordre du rapatriement.
Donc là, il y a tout ça. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, vous retrouvez avec des gens, vous essayez de faire éclater la vérité.
Oui, la première des choses qu'on a faites après le rapatriement, c'est une contre-expertise ou bien une autre autopsie, qui a été réalisée ici en Algérie, qui met en cause de la mort directement le choc facial qu'elle a reçu.
Est-ce que le fait que tu étais au téléphone avec elle ce jour-là peut te donner le droit de te porter partie civile?
Oui, bien sûr. Oui, je suis partie civile et je suis témoin. Même temps.
C'est très important, je voulais ça, parce que c'est très, très, très important. Sans toi, en fait, tout serait passé à la cendre, malheureusement.
Enfin, bon, c'est vraiment une histoire complètement folle. Et là, ce qui a vraiment été démontré par l'enquête que vous avez fait avec Disclose. Donc, Disclose, c'est pas n'importe quoi. Enfin, c'est les gens, c'est les journalistes qu'on fait sortir toute l'utilisation des armes françaises dans les guerres actuellement au Yémen et tout. Enfin, c'est vraiment des gens qui font un taf vraiment sérieux, quoi. Et donc, vous avez tout reconstituer la scène de manière assez hallucinante. Et ce que vous mettez en lumière, en fait, c'est que qu'il y a un tir tendu avec un projectile qui, normalement, doit être utilisé pour viser à 100 mètres, sauf qu'en fait, les bâtiments sont à 27 mètres, si mes souvenirs sont bons.
Voilà, et la grenade, elle était destinée aussi à être utilisée dans un espace de 1000 mètres carrés. Ouais. Imaginez la quantité de gaz que ma mère a inhalé quand cette grenade s'explose dans un petit appartement.
C'est énorme.
Ouais. C'est
sans nom, en fait, en vrai.
C'est hallucinant. Mmh. Et là, pour l'instant, c'en est où dans la procédure ? Il y a aucune mise en examen ?
Pour le moment, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien d'effectif, on va dire. Et je souhaite que la justice ordonne une nouvelle expertise et les juges nommés à Lyon ouvrent une enquête en considérant tous les nouveaux éléments.
Ouais.
Je souhaite de tout cœur que la justice ne ferme pas les yeux sur les nouveaux éléments et que cette affaire ou cette enquête soit prise au sérieux.
Il est important que la France sache que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des associations qui connaissent très bien les lois et qui ont eux-mêmes, pour certains, été victimes de ces actes et de ces... Voilà.
Qu'il existe ce genre d'associations et de collectifs et de personnes.
Et que vous êtes très, 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 très bien aiguillé et qu'on ne lâchera pas l'affaire. Voilà. Parce que...
Je suis déterminée et convaincue et...
On voulait
déterminer plus que de.
On voulait aussi parce que on s'est eu en ligne en parallèle je voulais aussi on voulait évoquer un sujet qui nous tient autant à cœur toi que moi, c'est que la France aujourd'hui elle est en discussion avec l'Algérie pour ces pseudo. Vas-y, je te laisse.
Et elle criminalise l'Algérie, soit la France et le Parlement européens ou français, qui criminalisent les répressions faites et la liberté d'expression et les répressions policières et tout. Bon, moi, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas en Algérie ou d'autres pays, il y en a partout. Mais ce qui me tient à cœur de le dire, c'est que quand quelqu'un demande ça ou, décriminalise ça, au moins qu'il y ait la moindre crédibilité.
Bah, surtout que la France a été condamnée à plusieurs reprises par l'Union, l'ONU.
Ils appliquent ça dans leur pays, après ils le demandent.
Exactement.
Moi, par ma propre expérience, je vois que vraiment il y a une injustice incroyable.
Parce que la France, ils ont souvent tendance à dire l'Algérie est un pays sous-développé, mais un pays sous-développé où les armes telles que les grenades d'engorgement.
Je vous dirai une chose, moi, le jour où ma mère a été atteinte par cette grenade, mm-hmm. Jusqu'à que je vois sa photo, je pensais qu'elle a reçu une grenade comme je le vois ici en Algérie, c'est-à-dire que c'est des grenades de gaz qui se jettent entre les pieds des gens et qui dégagent du gaz, c'est tout. J'ai jamais entendu parler de ce genre de grenade, j'ai jamais vu ça.
Il n'y a pas de flashball, il n'y a pas tout ça là-bas. Donc,
qui n'empêche pas d'autres types de répression hyper vénères par ailleurs, mais
voilà.
C'est vrai que la France...
Mais oui, à une heure, quand Iman a été voir ma mère à l'hôpital, et j'ai insisté pour avoir sa photo et la voir comment elle est, c'est là où j'ai réalisé
la dangerosité de cette arme.
Voilà. Et en voyant ma mère... Impossible de dire qu'elle était dans son appartement. On dirait qu'elle était dans une zone de guerre, qu'elle était dans, je ne sais pas où elle était, mais à part d'être dans un appartement, et voilà.
Ouais, et il y a un autre truc, c'est qu'en fait là.
C'est désastreux ce que j'ai vu.
On parle de toutes ces armes de guerre. En fait, c'est un truc que la France, elle vend un peu partout et elle se sert de ces manifestations-là, de cette répression-là et des images qu'il y a pour aller le vendre un peu partout dans le monde en montrant comment c'est efficace pour, justement pour frapper, faire du mal aux gens, quoi.
Non, ces armes sont très dangereuses. Je l'affirme et je le confirme. Et je souhaite de tout mon cœur que l'histoire de ma mère sert à ouvrir les yeux et à vraiment interdire ce genre d'armes, parce qu'il peut conduire à perdre les vies des gens innocents carrément, ou bien de causer des dommages physiques vraiment insupportables.
Ouais, il faut aussi dire que c'est du coup ça se passe à l'acte 3 des Gilets jaunes, c'est un moment où l'État il essaye d'empêcher les images de circuler aussi de toutes les violences policières, puisqu'il y a clairement des ordres qui sont donnés aux keufs là d'y aller de manière très sale pour calmer les manifestations en cours.
Voilà, surtout avec cette sécurité globale que je viens de voir sur la loi de sécurité globale qui interdit de filmer les répressions policières. Pour moi, c'est honteux de citer une loi pareille, dans un pays comme la France.
Et à Marseille, ça se passe aussi à un moment où il y a les immeubles de la rue d'Aubagne qui se sont effondrés. Et donc, il y a tout l'habitat insalubre et puis la gestion mafieuse par les politiciens et tout ça qui sort un peu au grand jour. Et il y a un gros mouvement social qui se passe à ce moment-là. Et en fait, particulièrement à ce moment-là en plus, c'est le moment où il y a la manif des Gilets jaunes et la manif contre l'habitat insalubre qui étaient en train de se rejoindre. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là où les keufs, ils font preuve de la plus de violence et voilà, et puis réussir à faire peur aussi après derrière.
Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est en fait c'est assez fréquent que les keufs ils essayent d'empêcher les gens. Enfin là, il y a beaucoup en ce moment les journalistes qui se plaignent d'être tapés parce qu'ils diffusent des images, mais en fait ça arrive genre hyper souvent que des gens qui soient à leur fenêtre ou qui soient pas loin d'une manifestation ou d'un truc violent des keufs qui essayent de réagir, de montrer ce qui se passe, se fassent choper. Et les histoires de grenades comme ça, en fait, c'est des trucs qui sont hyper vieux dans le maintien de l'ordre français. Et si je dis pas de conneries, il y a une autre histoire qui a été un peu médiatisée ces derniers mois, c'est à Lyon, où il y a des étudiants et étudiantes qui ont pris aussi une grenade, ils en sont pas morts, mais qui ont pris une grenade lacrymo sur leur... qui les a visés directement, parce qu'il y avait une manifestation contre les retraites qui se passait à ce moment-là, en bas de chez eux, qui sont sortis pour filmer, et les CRS, ils ont cramé ça et ils leur ont tiré dessus. Et du coup, c'est quand même aussi une politique pour faire peur, y compris aux gens qui pourraient filmer de loin et donner un peu des images de la répression, quoi.
Exactement, oui. Et moi, je pense, dans un pays développé, la moindre des choses, c'est de rassurer la sécurité des gens, au moins chez eux. Au moins chez eux.
Avant d'aller parler des autres pays, exactement. Parce que la France a les mains sales.
Si on ne peut pas être en sécurité chez soi, à sa maison, c'est grave.
Oui, ouais, mais après, ce n'est pas la première histoire aussi de personnes qui sont tuées par la police ou des morts liés à la police chez eux, hein, c'est des trucs...
C'est quotidien ici, hein, ouais. Il y en a 27, c'est ça, cette année.
Ce qui me tient au cœur, c'est que dès le début aussi, cette affaire, c'est flagrant, c'est qu'il y a une volonté d'étouffer cette affaire. Et j'ai trouvé du mal pour jaillir la lumière, j'ai trouvé du mal. Heureusement qu'il y a des gens qui m'ont soutenu, il y a des associations, il y a des personnes qui m'ont vraiment soutenu, qui se sont mobilisées pendant 2 ans pour en arriver à ce résultat aujourd'hui. Que je remercie aujourd'hui. Il y a l'ami de ma mère, Iman, il y a Liane B de Désarmolé, Flora de Révolution, Fadila sur Marseille, le collectif 5 novembre, et tous les gilets jaunes qui se sont mobilisés aussi, qui m'ont fourni des vidéos de ce jour-là, qui m'ont permis de jaillir la vérité.
Ce que tu dis, c'est vachement important que vous vous battiez pour ça, parce qu'en fait, ils ont vraiment tout fait pour dire qu'ils étaient, enfin, comme tu disais, qu'il n'y a pas eu de mort pendant ces manifs, et ce qui est vraiment ouf, quoi, de faire juste disparaître quelqu'un, et c'est vraiment juste parce que vous êtes battu avec ces gens-là que là, petit à petit, on continue à en parler, et on espère quand même qu'on va en parler de plus en plus de ce qui
s'est
passé.
Cette affaire, elle n'était pas soutenue, et bien sûr, le courageux Maître Bouzrou Yassine, c'est une chance. Que ce soit lui, notre avocat, cette affaire, il y avait une volonté de l'étouffer dès le début.
Mais c'est souvent la réaction de l'État de dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas existé. Voilà, quand il a été mis, enfin quand il peut être mis en faiblesse, quoi. À chaque fois, il cache, quoi. Voilà. Nous, on le raconte assez souvent là pour des révoltes qu'il y a eu dans les prisons, mais c'est un truc, voilà. Ils assument jamais leurs erreurs. Jamais. Enfin voilà, et qui sont plus que des erreurs, parce qu'en fait c'est la violence structurelle de la police qui est celle-là et qui aboutit à la mort des personnes. Mais dès que enfin voilà, et là enfin moi j'avais trouvé vraiment hallucinant à l'époque quand on regardait ce qui se passait. Donc on apprend le décès de ta maman et directement le procureur, puis derrière repris par le ministre de l'Intérieur et le président qui disent ah non elle est absolument pas morte de la grenade et voilà, mais du choc opératoire. Et c'était comme si ça devenait une erreur médicale.
Et voilà. sans même pas parler des circonstances qui ont conduit ma mère à l'hôpital.
C'est ça.
Voilà. C'est ça le début de ma colère, on va dire.
Bah oui.
Et puis entamer la justice, étouffer la justice, ça crée la colère. Ça crée
ce sentiment d'injustice et d'impunité. Ça crée la colère. C'est immonde.
Voilà, ça crée la colère et comme je le dis souvent, c'est des crimes que, on va dire, un crime impuni, c'est une autorisation à d'autres crimes pour moi.
C'est clair.
En tout cas, on est...
Il y a une seule solution pour régler tout, c'est la justice. Il n'y a pas d'autre, c'est la justice.
En tout cas, on est, nous, l'envolé à 1000% à tes côtés et du côté de tes proches. Ça, c'est...
Merci.
C'est du sûr et du...
Merci vraiment de m'accorder cet espace pour m'exprimer.
Avec grand plaisir. Et à chaque fois que tu auras besoin de cette antenne, elle sera la tienne.
Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci pour votre travail. Merci beaucoup.
Est-ce que tu veux nous dire quelque chose qui te tient à cœur vraiment ou...
Qu'on n'aurait pas dit, enfin, si tu veux rajouter quelque chose.
Il y a un truc, c'est le silence médiatique de on va dire des médias étatiques, bien sûr, parce que les médias indépendants, ils m'ont beaucoup aidé. Comme vous, aujourd'hui, votre radio m'a ouvert l'espace pour parler librement et sans condition. Et c'est très important d'avoir des médias comme vous. Mais le silence des médias, des autres médias, des grands médias, on va dire, étatiques, pour moi, c'est un silence complice.
Exactement.
Un silence complice, voilà, et qui cherche à étouffer, à couvrir. Et ce n'est pas le travail des médias et de la presse, normalement.
Oui, et de cette libre expression qu'on nous vend.
Oui, exactement.
Qu'on nous vend, hein, parce que... Mm-hmm. J'entends bien.
En tout cas, plein de force pour cette bataille, parce que là, clairement, vous êtes dans une bataille avec la justice. Voilà, on sait très bien comment ça se passe. Voilà, la justice, c'est aussi son fonctionnement que de pas fonctionner dans ce type d'affaires. Voilà.
Exactement. Ce combat n'est pas encore fini. On va le continuer et on donne le résultat de toute cette enquête. Prochainement dans un reportage spécial qui sera diffusé sur la page Facebook Révolution Permanente à 20h aujourd'hui. Okay. Il y aura une vidéo de choc, si vous pouvez suivre, dans le reportage, qui va montrer un truc très grave aussi.
Ok. On espère que les gens qui nous écoutent, ils vont quand même rester à nous écouter jusqu'à 20h30. Non, je fais une blague, mais en tout cas, en vrai, allez regarder ça et suivez ça, voilà. Un autre truc. Alors déjà, il va y avoir un rassemblement demain.
Oui, il y aura un rassemblement demain à Marseille.
Donc, tu peux nous dire le lieu et l'heure ?
Voilà, c'est un rassemblement organisé par Fadela à Marseille, qui gère la page contre les agressions policières, je crois. Voilà, et il va démarrer de Vieux-Port à 14h.
Ok, donc soyez présents, toutes les personnes qui peuvent nous écouter par Internet à Marseille et qui sont dehors, bien sûr. Voilà, et y a d'autres rassemblements dont on va parler dans quelques instants. Ouais. Merci beaucoup d'avoir appelé. Est-ce qu'il y avait encore un truc que tu voulais rajouter ?
Non, ça va, je vous remercie du fond du cœur et je remercie tout le monde pour le soutien moral qui est très important pour moi.
Il n'y a aucun souci, c'est normal. Et
je me retrouve face à cette injustice et tout, et heureusement qu'il y a des gens qui sont là, qui donnent la force et le courage.
Mais en tout cas, vraiment, dès que tu as besoin de re-raconter des trucs, qu'il y a des avancées, qu'il n'y a pas d'avancées et que tu as besoin de rappeler qu'il y a ça qui se passe, on est là pour ça. Maintenant, ça y est, on est en contact. Et donc, vraiment, n'hésite pas. Cette antenne, c'est la vôtre à tous.
Merci beaucoup. Bon courage à vous.
Merci.
Bonne soirée, Sylvia. Merci beaucoup.
De rien, c'est normal.
Pour votre générosité, votre bon accueil. Merci à tout le monde.
Merci. À
merci à toi.
Bonne soirée.
Salut.
Bonne soirée, au revoir.
Plein de force. Salut. Alors, pour continuer un peu sur ces violences policières, ces meurtres policiers, on va passer un petit son de Awa Gay, qui d'habitude nous appelle tous les ans, et là qui fait un appel à la marche qui aura lieu demain aussi à Rennes. Donc et après derrière, on mettra un petit peu de musique pour vous rappeler cette histoire. C'est les policiers qui vont dans un appartement tuer Babacar. Avec plein de trucs de ouf, comme je le rappelais tout à l'heure, l'arme du crime qui a été détruite entre guillemets par erreur dans les scellés. Des expertises balistiques qui sont complètement contradictoires avec tout ce que peuvent dire les policiers. Comme d'hab, la justice fait son taf de cacher et d'empêcher que la vérité éclate. C'est un petit enregistrement de Hawa.
Bonjour, je m'appelle Hawa Gay, je suis la sœur de Babacar Gay, qui est assassinée par la police le 3 décembre 2015 à Quartier Mopa à Rennes. Je lance un appel, un rassemblement pour rendre hommage à mon petit frère Babacar, le 5 décembre. Je vous invite à venir nombreux et nombreuses pour nous soutenir. Rendez-vous au GAST à Quartier Maurepas à 14h. Cet appel que je vous invite à venir à tous et à tous, c'est pour obtenir un procès pour punir cette policier. Parce que quand un policier il assassine quelqu'un, ils ne sont pas punis. Il a arraché la vie des personnes. Babacar, c'est un démon comme tout le monde. Cette police-là, il mérite une punition. Parce qu'il a assassiné mon frère. Il a assassiné un homme. Il sait qu'ils ont assassiné un homme. Il savait qu'ils sont tort. Je veux un procès. Je veux attendre cette police-là devant moi encore. Venez nombreux pour me soutenir. Merci.
C'est pour la famille, ça. Pour la famille. Le cœur en deuil. Il nous manque tous quelque chose pour être heureux. Dur d'aimer la vie quand la mort invite aux cieux ceux qu'on aime, ceux qui sont censés rester encore un peu, pas encore vieux, avec encore trop d'amour dans les yeux. Ceux qui quittent ce monde sans avoir eu le temps de le goûter, seulement le temps de douter. Hier, le temps, je m'en foutais. Aujourd'hui, je regarde ceux que j'aime à les user. Leur visage m'apaise comme rien ne m'a jamais apaisé. Où est celui qui me disait que ceux qui me manquaient étaient là-haut? Où est celui qu'on appelait lui aujourd'hui aussi là-haut? Où est celui qui me disait que ceux qui me manquaient étaient là-haut? Où est celui qu'on appelait lui aujourd'hui aussi là-haut? Que Dieu ait son âme, réconfort pour toutes les familles en noir. Mes larmes se mêlent à l'encre, mon stylo pleure sans le savoir à sa mémoire. Chaque vers de ce texte est dédié, c'est juste ça. La larme à l'œil, n'arrêtez pas de prier et crier sur les toits que je fais ça à la gloire de mon père, à celui qui n'a pas été, à celui qui n'a pas pu être, mais l'espère. L'espérance fait vivre. Sur ce, mon cœur se ferme à jamais comme ton livre. À chaque fois que je regarde le ciel, je me dis que du ciel on me regarde. Le ciel est pour les anges, alors sur lui mon regard j'attarde. Comme on dit les anciens, la mort c'est la vie aussi. C'est mon avis. vie aussi. Qui dit entrée dit sortie. À chaque fois que je regarde le ciel, je me dis que du ciel on me regarde. Le ciel est pour les anges, alors sur lui mon regard j'attarde. Comme on dit les anciens, la mort c'est la vie aussi. C'est mon avis aussi. Qui dit entrée dit sortie. Ah j'avais pas vu que le petit frère était devenu un homme. Il a supporté ça, assumé ça, ouais comme un bonhomme. J'ai pas vu ses larmes, a à peine ressenti sa peine. J'ai vu ses yeux briller, mais jamais assez pour que je le prenne dans mes bras. Jouer simplement mon rôle de grand frère. Trouver les mots là où certains laissent le silence faire. Laisser le temps faire son ouvrage. Plier sous l'âge, trouver le courage face à une peine que rien ne soulage. Pense à ma petite sœur et à ma mère face à ça. Quoi faire pour soulager leur cœur à part être là. Je prie pour que le temps les aide à surmonter ça. Et je prie pour ceux qui ont connu, connaissent ou connaîtront ça. Connaîtront ça. A chaque fois que je regarde le ciel, je me dis que du ciel on me regarde. Le ciel est pour les anges, alors sur lui mon regard j'attarde. Comme on dit les anciens, la mort c'est la vie aussi. C'est mon avis aussi, qui dit entrée dit sortie. A chaque fois que je regarde le ciel, je me dis que du ciel on me regarde. Le ciel est pour les anges, alors sur lui mon regard j'attarde. Comme on dit les anciens, la mort c'est la vie aussi. C'est mon avis aussi, qui dit entrée dit sortie. Condamné à garder son souvenir dans mon cœur en guise de présence. Condamné à regarder le ciel pour combler son absence. Comme on dit les anciens, la mort c'est la vie aussi. C'est mon avis aussi, qui dit entrée dit sortie. En vérité, on bouche le trou avant de tomber dedans. Demain c'est peut-être mon tour, alors je dois plus perdre mon temps. Il passe tellement vite que demain ça fera longtemps. Il sera lointain de tout ça. Et pourtant j'ai toujours l'impression que c'était hier. J'entends ses voix et ses pleurs face à cette dalle de pierre. Image insoutenable, gravée à vie dans ma matière grise. C'est ça, on fait de nos vies en bise. Pour certains, le moral se brise. A chaque fois que je regarde le ciel, je me dis que du ciel on me regarde. Le ciel est pour les anges, alors sur lui mon regard j'attarde. Comme on dit les anciens, la mort c'est la vie aussi. C'est mon avis aussi, qui dit entrée dit sortie. A chaque fois que je regarde le ciel, je me dis que du ciel on me regarde. Le ciel est pour les anges, alors sur lui mon regard j'attarde. Comme on dit les anciens, la mort c'est la vie aussi. C'est mon avis aussi, qui dit entrée dit sortie.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est 01 40 05 06.
Ouais, ça c'est pour nous appeler 06 10.
Ouais, tu sais pourquoi en fait parce qu'en fait je pensais à un truc en même temps. Heureusement qu'il n'a pas entendu le Serge. Hein, parce qu'elle était très belle celle que je viens de
dire. J'ai complètement entendu.
T'as entendu? Oh, zut. Et donc du coup, c'est pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e.
L'envolée-fpp. Pour nous appeler en semaine, c'est au 07 52 40 22 48. Le 07 52 40 22 48.
On parle de l'abonnement.
Et sur le Minitel, Sylvia, c'est où?
C'est 3615.
Non, en vrai, vous pouvez nous caler aussi sur les réseaux sociaux et puis par mail. Mmh. Donc voilà.
Ouais, et du coup, on voulait revenir un peu sur... à la fin, ça appelait à la manifestation de demain. Demain, il y a un gros appel pour celles et ceux qui sont dehors pour continuer de manifester contre la loi de sécurité globale. Pas forcément que contre l'article 24 comme les journalistes, mais bien contre tout le projet que ça porte, quoi. C'est-à-dire à la fois les questions de police, on en a parlé il y a 3 semaines, donc de la municipale, des vigiles qui deviennent la municipale qui devient la police nationale, et la police nationale qui continue d'être encore plus dans l'impunité et la répression. Et donc ça concerne aussi la reconnaissance faciale, l'utilisation des drones, tout ça. Et donc pour demain, il y a un appel à manifester à Paris, on va le redire à la fin de l'émission, mais déjà on en profite vite fait pour celles et ceux qui sont dehors. C'est 14h demain, donc le samedi, à Porte des Lilas, donc c'est sur la ligne 11, voilà, et ça marchera en direction de République, quoi.
Et juste pour rappel, clairement, il y a un vrai problème de représentation des familles de victimes de meurtres policiers dans ces manifs. Voilà, il y a les journalistes qui sont clairement accaparés cette lutte, par la LDH et autres, et c'est complètement intolérable, et surtout ils imposent leur manière de lutter, et alors que les familles ne sont absolument pas là-dedans, voilà. Et donc il y a eu petite discussion, on va dire, la semaine dernière. Et c'est complètement intolérable, déjà, de s'imposer comme ça à la place vraiment des principaux concernés qui sont les premiers face aux violences policières, aux violences de la police.
Et qui se battent tous les jours sans l'aide d'un de ces journalistes qui font du blocus parce qu'ils ne veulent pas médiatiser ou parler de tout ça. Et effectivement, c'est de s'accaparer des douleurs des gens, encore une fois, et de se victimiser.
C'est ça. Et donc, c'est bien mignon, là. Enfin, voilà, quand la semaine dernière, des potos m'ont raconté qu'il y avait un petit troupeau de journalistes avec leur pancarte Paris Match. Désolé, les gars, mais en fait, vous ne faites pas partie de ces luttes qui durent depuis de nombreuses années. C'est très bien que vous y participiez et tout ça, mais juste en retrait. Derrière les premières personnes qui vivent le truc et tout ça, et de la même manière que des journalistes qui se disent soi-disant underground, je sais pas trop quoi, enfin voilà, et qui viennent de la rue ou voilà, le taf que vous faites, ça reste toujours le même. C'est un taf de journaliste, c'est pas, vous participez pas à la lutte, Et donc de la même manière, enfin voilà quoi, il y en a un maintenant qui interviewe le président et puis ils sont contents parce qu'ils augmentent leur audimat, Mais donc faut arrêter de déconner, parole. Aux proches, parole aux familles, parce que c'est ça le plus important, quoi.
Ouais, et c'est les mêmes journalistes qui ont quand même pas mal fait le jeu du gouvernement, relativement comme d'habitude. Il y a eu un communiqué de la coordination là, d'une partie des collectifs qui appellent à ces manifestations, qui a été vraiment dégueulasse, où il y a une dissociation sur les manières de manifester des unes, des uns et des autres. Et c'est les mêmes journalistes qui, en fait, là, commencent à parler de violences inacceptables contre les keufs, quoi. Et en fait, on leur a absolument pas demandé leur avis de quoi que ce soit, ni de se positionner. Il y a un truc qui est genre totalement hallucinant où à la fois ils se permettent de prendre la place des proches, après de dire comment il faudrait qu'on aille ou que les gens aillent manifester quand même. Enfin, c'est genre totalement ouf, quoi. On leur a rien demandé. Et du coup, c'est la même chose, quoi.
Et c'est ces mêmes journalistes, en fait, qui ont filé des rushs à la justice sans aucun souci, qui, là, pour la première fois, disent « Oh, ils nous demandent ça, c'est vraiment complètement scandaleux !» Alors qu'en fait, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Et là, il y avait quand même un truc complètement...
Et c'est ces mêmes journalistes qui filment lors des manifestations où des mecs sont tombés grâce à leur...
Voilà, et c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a un vrai problème, parce que là, en fait, là, maintenant, dans cette manifestation, les journalistes sont quasiment des héros du truc, et qu'en fait, qui filme, c'est bien. Non, en fait, ce qui filme, ça donne que des billes à la police. Et donc, faut arrêter de déconner. Ces gens-là participent de la répression. Voilà, parce qu'en fait, ils ont beau se donner bonne conscience en disant « Mais non, mais on a flouté le visage. »
Ça fait du bien, Serge, là.
Mais non, mais ouais, mais parce qu'en fait, c'est un truc qui m'énerve, parce que je les vois, ces putains de journalistes sur les réseaux, et ça me rend fou. Et en fait, ils sont tout le temps là, on dit « Mais non, mais on n'a pas filmé le visage, on n'a pas filmé, on a flouté les visages et tout ça. » Mais en fait, il y a eu combien d'articles de presse qu'on a lus où ils disent on a réussi à l'identifier parce qu'en fait on a remonté 25 types d'images. Donc il y a les images de vidéosurveillance où là la personne est en entier. Et donc en fait il suffit de recouper l'image du journaliste soi-disant militant où en fait on voit juste la chaussette rouge. Mais oui, ok, on peut pas identifier la personne là-dessus, mais en fait pour les keufs c'est pareil. Et donc qu'ils arrêtent de dire ah non, on vous protège et tout ça, on fait que documenter, c'est important pour votre lutte. Non, vous nous foutez en danger et vous foutez en danger tous les manifestants. Faut qu'ils arrêtent. Et c'était hyper inquiétant de voir que dans la manifestation, il y avait collectivement les gens qui trouvaient ça trop cool que ces journalistes soient là et filment. Non, ces gens-là sont dangereux. Voilà, il faut arrêter. Ils sont en train de piquer cette lutte-là. Ils sont en train de complètement de centraliser sur l'article 24, qui est un truc minime dans cette loi.
Non, puis c'est à cause d'eux que la loi va passer. Il faut écouter ces victimes qui, aujourd'hui, se battent et dénoncent le fait que filmer un flic lors d'interventions est nécessaire. Aujourd'hui, c'est notre arme à nous. Ça. Et on veut nous retirer notre arme.
Mais ça, c'est ce que disait Serge. En fait, c'est des trucs qu'il faut faire de manière intelligente. Et c'est pas ce que fait la presse. En fait, on ne demande pas d'aller filmer la manifestation de A à Z. On demande. En fait, c'est pour ça que c'est aux manifestants et aux manifestantes de décider quand est-ce qu'il faut filmer et pas à la presse.
Exactement.
Parce que, en fait, sinon, tu fournis juste des armes au keuf. C'est ce qui est en train d'expliquer Serge, quoi. Mmh. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, c'est ce que tu disais quand on dit que l'article 24, c'était quand même du bullshit. C'est qu'il y a un truc de toute façon, quand tu filmes actuellement des violences policières, les keufs te répriment. et tu peux aller en garde à vue. Et les keufs, ils ont pas besoin d'un motif de garde à vue lié au fait que tu les filmes pour te foutre en garde à vue. Enfin, l'outrage et rébellion, ça suffit largement pour qu'ébarre n'importe qui. Et donc, en fait, c'est déjà quelque chose qui est en place. Et là, ça visait spécifiquement les journalistes. Et c'est pour ça que là, ils sont révoltés. Mais c'est un truc qui se passe depuis des années. Et de la même manière que là, ils commencent à nous dire tous, ouais, mais c'est incroyable, ça fait maintenant, on est obligé de venir casquer, etc., en manifestation. En fait, là, ça fait aussi 6 mois qu'ils font tous la com du gouvernement en disant, mais ouais, il n'y a pas eu assez de sécuritaires. Et donc, en fait, à chaque fois, ils sont en train de surfer juste sur des sujets en vogue. Et c'est les mêmes qui vont profiter de la manifestation de la semaine dernière en disant, ouais, mais il y a aussi des violences, enfin, en mettant sur le même plan des violences qui n'ont rien à voir, quoi. Enfin, des manières de manifester et des violences de gens qui sont payés pour venir tabasser des gens, encadrer une manifestation, parce que la manifestation, même s'il y avait eu des consignes, hyper. À Paris, en tout cas, hein, hyper clair de la part de la préfecture que les keufs ils sont en retrait. En vrai, il y a eu à nouveau des violences des keufs, comme à toutes les manifestations. Et eux, ils sont en train de nous faire tout un cinéma sur une keuf qui aurait eu, enfin, qui aurait pris 3 coups, quoi. Enfin.
Et surtout qu'en plus, ils le présentent de manière complètement catastrophique, cet article. Parce qu'en fait, cet article, bon, alors déjà, il était rédigé n'importe comment. Donc, enfin, moi, perso, je suis quasiment sûr que ça ne serait pas passé au Conseil constitutionnel. Mais bon, ça, c'est mon truc. Mais par contre, le vrai truc, c'est qu'en fait, cet article, le seul droit qu'il donnait, et c'est ça le droit le plus important, c'est qu'il donnait le droit de t'arrêter parce qu'on te soupçonnait d'un truc que la juge allait pouvoir juger, l'intention qui était mauvaise. Et voilà. Et donc ça, en fait, c'est jamais les keufs qui pouvaient le faire. Ça serait que une juge. Mais par contre, les keufs, ils peuvent t'arrêter en disant, nous, on soupçonne que l'intention, elle soit mauvaise. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après, derrière, ils t'arrêtent, ils te foutent en garde à vue, ils ont l'autorisation de fouiller dans ton téléphone maintenant depuis encore une loi sécuritaire il y a, je sais pas combien de temps, mais de toute façon, il y en a une tous les 6 mois maintenant. Et donc, détruire les images. Voilà. Et donc, l'objectif, il était principalement là. On est tous en train de... Ils ont réussi, les journalistes, à focaliser le truc sur nous, notre petit truc, on ne va pas pouvoir mettre dans nos médias les trucs, ces images. Mais le vrai problème, il est sur le rapport entre la police et la personne qui filme, qu'il soit citoyen ou journaliste. C'est on donne le droit à un policier de t'arrêter. Mmh. Voilà. Et qu'avant, en fait, il devait justifier, bidonner les contrôles et tout ça, comme ils le font tout le temps. Ils disent, ils bidonnent le truc, puis en fait, ils te relâchent peut-être après, soit ils te font passer au tribunal. Mais là, ils avaient un truc supplémentaire. Ce qu'ils faisaient déjà, en fait, c'est un truc qu'on dit classiquement ici. Juste là, ils avaient l'autorisation légale de le faire. Enfin, ils avaient l'outil juridique pour pouvoir justifier des pratiques qu'ils avaient déjà auparavant, quoi. Et ça... Il n'y a aucun de ces journalistes qui est capable de le comprendre parce qu'en fait, ils ne le font pas. Enfin, ils ne savent pas c'est quoi ça. Ils ne le vivent pas. Et donc, ils n'y croient pas, quoi. Et voilà. Et donc, qu'on n'oublie pas aussi, et d'ailleurs, c'est le moment d'y revenir parce qu'il y a eu un article dans Le Monde qui était proprement dégueulasse, soutenu par l'OIP. Cette loi, elle contient aussi le fait qu'il y ait la suppression des remises de peine pour les prisonniers...
Soutenu par qui ?
Comment ?
Soutenu par
non,
qui ?
Non, c'était l'article. Non, c'est pas. Voilà, mais c'est juste. On va venir à l'article du Monde qui était complètement hallucinant. C'est que ça y est, pour la première fois, il y a eu un article qui parlait dans la presse, qui parlait de cet article, je sais plus combien, qui supprime les remises de peine. L'article.
Pour les personnes qui ont agressé ou qui ont commis des violences ou je sais pas quoi contre des keufs.
Outrage et rébellion.
Ouais, en gros, si tu es condamné pour un truc contre un keuf, tu n'auras pas le droit aux remises de peine auxquelles normalement tu as le droit, quoi qu'il arrive.
Et donc ça, en fait, c'est un outil de la gestion de la détention. C'est une carotte qu'on te donne quand tu entres en détention. Et en fait, t'as un quota qu'on va pouvoir te sucrer petit à petit si tu as fait un regard de travers au maton, plein de choses. Et donc ça, c'est un outil de gestion de la détention qui est un outil très fort. On parle souvent du module
Respecto.
Le module Respecto.
C'est un peu ça, parce que c'est sélectionné sur le tas.
C'est ça. Mais donc, tout ça, c'est des outils de gestion de la détention pour faire en sorte qu'en détention, ça ne pète pas. Voilà. Et là, le seul argument qu'arrive à trouver l'OIP dans le monde, c'est de dire vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, l'administration pénitentiaire, en ne punissant pas ça. Mais c'est quand même complètement hallucinant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas justifier ce genre de truc. Que les gens ils sortent plus tôt et qu'ils doivent sortir plus tôt, en fait, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est revendiquer que ça soit des remises de peine automatiques, qui ne puissent pas être sucrées, mais rien d'autre.
Ouais, sachant qu'en fait, c'est ce qu'ils disent, c'est, je crois que c'est, le Monde disait aussi que c'est ce qu'ils appliquent depuis quelques années maintenant aux gens qui sont...
Vous parlez bien des... Parce qu'en fait, il y a deux sortes de grâces. Il y a la grâce, pas les grâces. Il y a deux sortes de remises de peine. Il y a celle qui est automatique par l'État, mais il y a celle de la prison qui est 3 mois à peu près par an.
Ouais, c'est ça, c'est la remise de peine supplémentaire qui sont 3 mois la première année et 2 mois tous les années supplémentaires.
Tous les ans, ouais, exactement. Tous les ans, tu signes tes remises de peine de la prison. Donc tous les ans, tu sais, mais en fait, la plupart du temps, tu n'as jamais ces 3 mois. Ils te donnent une semaine, 2 semaines, et c'est vraiment au cas par cas et du n'importe quoi. Ouais, par exemple, le mec qui a travaillé, il va avoir 2 semaines, le mec qui n'a pas travaillé, il peut avoir 3 mois, tu vois ce que je veux dire? C'est du n'importe quoi en vrai, leur truc. C'est vraiment au délit de faciès en vrai, tu vois? C'est vraiment...
C'est arbitraire, quoi.
C'est arbitraire, exactement, voilà. Mm. Déjà, c'est arbitraire. Voilà.
Puis c'est au CRI bidon que t'as reçu pour une connerie. Enfin, voilà, c'est vraiment...
T'as fait du mitard, c'est mort, t'en as pas, d'office.
C'est vraiment tout ça. Mais en fait, on peut pas valider ces outils de gestion de la détention, en fait. C'est pas possible. On peut pas dire à l'administration, voilà comment faire pour qu'à l'intérieur, ça soit plus calme. On le sait, en fait, que c'est tout un système de carottes, bâtons. Il y a tous les régimes différenciés qui sont utilisés dans ces fins-là, le module respecto, toutes les nouvelles tôles qu'ils sont en train de mettre en place, c'est exactement pour ça. Mais on peut pas, en tant qu'association soi-disant qui défend les prisonniers, valider ce genre de choses, en fait. On demande que les gens, ils construisent leur propre cage. C'est pas possible, en fait. Et donc là, que l'OIP valide ce truc en disant « mais vous vous tirez une balle dans le pied », mais c'est hallucinant comme argumentaire, en fait. Voilà, c'est juste. En fait, non, les remises de peine, elles doivent être automatiques et effectives pour tout le monde, point barre. Voilà.
Je vais répondre à une question, parce que dernièrement, l'Observatoire international, enfin, une membre de l'Observatoire international des prisons a su qu'on était sur... qu'on aidait, parce qu'ils appellent ça un dossier, nous on appelle ça aider des gens qui sont dans la détresse, en détention, et qui a osé à demander à la personne, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit, l'envolé? Je vais te dire, en fait. Ce qu'on a dit, nous, l'envolé, on a dit que tu étais incompétente, en fait. Voilà. Vous êtes incompétent pour moi. C'est une ancienne prisonnière qui vous parle. Je ne vous parle pas au nom de l'envolé, je vous parle en tant que Sylvia, ancienne prisonnière. Vous êtes des incompétents. Vous êtes bon qu'à observer et à médiatiser voilà, ce qui vous intéresse et à faire parler de vous. C'est tout ce que vous êtes bon à faire pour moi. Voilà. Après, c'est vraiment en mon nom. Ce n'est pas tout l'envolé qui peut penser ça. Moi, je le pense. Donc, effectivement. Travailler avec vous, ça me transperce le cœur, mais comme si j'avais pris un coup de poignard. Voilà, ça c'est dit.
Ouais, puis parce qu'en fait, c'est ce que tu étais en train d'expliquer, Serge, sans vouloir mettre ton blase, mais c'était ce que tu étais en train d'expliquer. C'est-à-dire que quand tu vas à ce point-là dans le sens de l'administration, et quand en fait, tu en es arrivé à un discours qui est comment maintenant on va gérer au mieux les prisonniers en utilisant des carottes pour pouvoir les bolosser et les garder au calme. En fait, c'est que tu fais totalement le jeu de l'administration pénitentiaire et que tu penses plus du tout du côté des prisonniers et prisonnières. Et du coup, là, c'est même plus une question de qu'est-ce qui relaye médiatiquement, qu'est-ce que machin, en fait. Et ça fait quand même assez longtemps que sur les questions de peine alternative, la manière dont ils se positionnent, en fait, ils participent à la construction de cette société carcérale, genre totalement en ayant en plus la figure du « ouais, nous, on est les humanitaires qui faisons ça pour le bien des prisonniers et prisonnières, quoi ». Donc c'est à la fois eux qui subtilisent, enfin, genre, ils prennent la voix des prisonniers et des proches, et en plus de ça, ils vont dans le sens de la paix, quoi.
Non, puis c'est facile de dire à une famille en détresse qui demande... Alors, effectivement, quand on fait partie de ces gros organismes, c'est pas que vous, hein, et que quelqu'un appelle pour dire « Voilà, mon mari demande un transfert, ça fait 6 mois que j'ai pas de transfert. » C'est compliqué, c'est sûr que tu t'en fous, en vrai. Mais il faut avoir vécu l'incarcération et le fait d'avoir visité des gens pour comprendre le sentiment de cette personne qui vous appelle dans la détresse. Voilà. Et lui dire « Ah oui, mais c'est pas avant... normalement, il faut compter 6 mois pour un... » Mais c'est 6 mois, vous savez ce que c'est 6 mois dans une vie, quand on n'a pas d'oseille, qu'il faut traverser la France pour aller voir son mari et que c'est dans la loi le transfert familial. Et que pour un transfert disciplinaire, en une fraction de seconde, le mec, il peut être transféré. Alors qu'il y a de la place, en fait. Quand vous voulez. Enfin, quand ils veulent, parce que c'est pas vous non plus, tu vois. C'est leur argument, leur réponse, leur... Après, je ne vais pas faire leur procès, mais... Enfin, si, j'aimerais bien, mais pas ici.
Non, mais peut-être pour revenir sur ce truc des peines alternatives et tout ça, c'est une évolution qu'ils ont eue il y a une dizaine d'années, juste avant que Taubira devienne ministre de la Justice, où, avant l'élection présidentielle, ils ont fait un rapport sous carré, que c'était pas vraiment l'OIP, mais en fait, c'était tous les gens de l'OIP, qui s'appelait « Pour une peine juste et efficace ». Déjà, enfin, ça pique très très fort, quoi. Et quand je dis ça pique, c'est vraiment, je suis gentil. Voilà.
C'est pas leur rôle.
Et en fait, il y a eu un vrai renversement à ce moment-là de la part de cette association, qui a commencé à vouloir expliquer et dire aux ministres et autres ce qu'ils devaient faire et comment faire pour que ça fonctionne mieux. Mais putain, mais en fait, depuis quand c'est un observatoire, voilà, un observatoire de dire comment ça doit se passer, en fait. Vous, votre rôle, c'est normalement, enfin, vous dites que vous êtes des journalistes et tout ça, votre rôle, il est seulement d'aller relever des trucs qui se passent mal, soi-disant avec votre objectivité, qui vous permettent de jamais dire, on a discuté à cette antenne de l'envolée, enfin, pas à l'antenne de l'envolée, mais à FPP avec ces gens-là, et on leur a fait la remarque à Cécile Marcel, qui est la directrice de l'OIP. On lui a dit qu'il y avait un problème, qu'il ne relayait pas facilement la parole des prisonniers et tout ça. Il disait non, mais nous, il faut qu'on vérifie complètement les faits, donc on a besoin de plusieurs sources et tout ça. Pendant le confinement, on a discuté avec eux et tout ça, enfin, certains d'entre nous. Voilà. Et comme d'hab, il y avait besoin, il ne croit pas la parole des prisonniers, voilà, soi-disant avec ce truc journalistique.
En fait, il ne parle pas, il leur faut des preuves. Il faut une plainte, il faut un certificat médical. Ça veut dire que si tu leur envoies, parce que des fois, t'as un appareil photo en cellule, tu vas lui faire voir les photos des bleus que t'as sur le corps et sur le visage. Non, il faut que t'aies un certificat médical. Mais ce qu'ils veulent pas comprendre, c'est que quand tu te fais tabasser par un surveillant ou par des surveillants en détention, avant d'avoir vu un médecin, les bleus, ils ont le temps de partir.
Voilà. Ouais, et puis, donc qu'est-ce qui se passe? Comment t'es passé dans leur tête, quoi, en tant qu'association, de « vas-y, on documente ça ». Sans jamais donner la parole aux prisonniers, donc ce qui est déjà un énorme problème, mais passons. Voilà, on va vous expliquer maintenant comment il faut faire pour mieux enfermer. C'est complètement hallucinant. Et c'est un virage qui a été pris, ils, soi-disant, changent un peu le truc et tout ça, et ils ont fait 2-3 rapports, la Omerta, violence des matons et tout ça, qui n'était pas complètement affligeant. Et enfin bon, ça c'est mon point de vue aussi, on va chacun parler de notre point de vue, mais moi je pense qu'il y a 2-3 trucs qui ne font pas trop mal, comme les batailles juridiques qui
ont changé tout ça. Mais ça tant mieux en fait.
Mais c'est un... Comment ?
Non mais tant mieux en fait, parce que on n'est pas là pour leur dire bien wesh quand ils ont gagné un truc au terre, en fait, enfin, c'est leur base, c'est la base, sinon ils servent vraiment strictement à rien. Enfin, c'est ça le truc, c'est comme avec la CIMAD dans les centres de rétention, c'est genre merci des fois de remplir un dossier correctement et merci de savoir faire un recours au Conseil d'État. En fait, c'est uniquement le seul rôle de ton association, quoi, quand tu collabores pas avec l'État. Et du coup, c'est aussi, enfin, c'est pour ça que juste quand je dis ça, c'est juste pour dire que quand on dit tout ce qu'on a dit là à l'instant, c'est pas pour dire qu'ils font strictement rien, quoi. C'est qu'ils se contentent vraiment du minimum. Et que faire les recours juridiques, en fait, ça devrait être que vraiment une toute petite partie de leur taf en tant qu'observatoire dans ces lieux d'enfermement. Enfin, c'est ça qu'on essaye de dire, quoi.
Non, mais moi, en fait, c'est juste pour dire que, voilà, il n'y a pas... Enfin, en fait, c'est pas nous, les moyens d'action. On a déjà invité des avocats qui participent à ces trucs et tout ça, et qui le disent très bien en disant... C'est un moyen parmi d'autres de lutte, et voilà, et... on ne discrédite pas les autres. Voilà. Et voilà, moi clairement, la lutte juridique, c'est pas l'espace que j'ai envie d'investir et tout ça. Et c'est, en tout cas, ce n'est pas le nôtre ici à l'envolée. Faut dire qu'il y a 2-3 trucs qui ont été obtenus. Oui. Mais ne l'oublions pas, à chaque fois qu'ils ont obtenu des choses, l'administration pénitentiaire s'est ajustée. Les régimes différenciés sont la réponse à des attaques au lancement de la guérilla juridique qu'ils ont lancée il y a 15 ans, voilà, ou même 20 ans, où ils ont réussi à obtenir que des juges pouvaient jeter un œil dans le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Donc, voilà, à chaque fois, c'est... en fait, je ne sais pas comment le décrire, mais ils repoussent, en fait, des trucs où l'administration s'adapte à chaque fois, et donc l'efficacité derrière, elle reste quand même globalement assez limitée. Par exemple, combien de personnes ont été libérées là pour conditions indignes de détention? On l'a mis dans le journal, voilà, mais combien de personnes ont été libérées pour conditions indignes de détention alors qu'ils sont en préventive? Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'écho. Et donc, voilà, c'est, ça, ça interroge sur l'effectivité du truc, hein, ça c'est sûr. Donc, voilà. Bon, bah, on n'était pas parti là-dessus.
Ça fait sacrément du bien parce que ça faisait longtemps que je me retenais.
Non, mais peut-être que du coup, on va revenir vite fait sur la loi de sécurité globale. Parce qu'à la base, on parlait de ça. C'était pour dire que du coup, c'est quand même. On parlait un peu du rôle de chacun, chacune et de comment fallait. Il y avait des positions qui étaient un peu reloues à supporter, quoi. Et du coup, on en profite juste pour peut-être faire le rappel pour demain. Pour dire que c'est 14h, porte des lilas sur la ligne 11 pour la manifestation, pour celles et ceux qui sont dehors à Paris.
Ouais, mais juste pour faire le lien par rapport à ce que vous y disiez au début, un truc dont on parle souvent ici, c'est qu'effectivement, la façon dont les journalistes y posent le débat, ça fait croire que oui, c'est important les images pour documenter quand il y a des violences policières. Voilà. Et nous, en fait, on sait très bien qu'il y a des violences tout le temps et qu'en fait, les trois quarts, mais comme on le disait au début là, avec l'histoire à Toulouse, en fait, elle se passe hors des caméras, en prison, en fait, il n'y a pas d'image. Dans les trois quarts, de toute façon, des histoires, il n'y a pas d'image. Et qu'en fait, c'est les luttes, c'est pas parce qu'il y a des images que ça va faire quoi que ce soit. En fait, les images, à chaque fois, c'est une, et enfin, bon, heureusement, on le sait bien, c'est une histoire qui sort parmi mille. Et que, en fait, notamment dans les endroits dont on parle ici, c'est-à-dire soit dans les CRA, soit dans les prisons, en fait, il y a un contrôle de l'image. On en a parlé il y a un an. Maintenant, tu prends des peines plus lourdes en prison si tu fais sortir des vidéos ou si tu fais sortir des images. En CRA, pareil, on a dit, en fait, c'est vachement réprimé, toutes ces histoires-là. Et donc, en fait, sur tous ces endroits où les violences des keufs ou des matons, elles sont quotidiennes et elles sont sans limite parce que, voilà, il n'y a pas de contrôle, il n'y aura pas d'image, quoi.
Et en fait. C'est là où ça pose la question, en fait, quand on parlait de l'OIP, là, et tu fais qu'il demandait des preuves d'adopter toutes ces techniques de keuf, là, que ce soit par la CIMAD, par tout ça, en fait, ce truc de demander des preuves, de constituer un dossier où les gens, en fait, ils sont enfermés, c'est déjà la galère de faire sortir une information, qu'elle arrive au bon endroit sans que ça ait été intercepté par des keufs, par des matons, par tout ce que tu veux. Et en plus de ça, les gens, il faudrait qu'ils montent un dossier, qu'ils mettent d'autres prisonniers dans le dossier avec leur identité, etc. Parce que sinon, les associations qui sont payées pour ça, en fait, refusent de le relayer parce qu'elles refusent de prendre des risques. En gros, c'est ça, quoi. Et en fait, c'est ça qui est hyper vénère dans tout ça, quoi. Et c'est pour ça que, oui, en fait, le truc de se battre que pour les images, c'est contradictoire avec le fait qu'il y a les trois quarts d'histoire, elles seront pas avec des photos, elles seront pas avec des dossiers et des mille témoignages, etc., quoi.
Et disons-le. Disons-le, c'est pas les caméras piétonnes là, que vont avoir les keufs qui vont changer quoi que ce soit à cette histoire. Le problème, c'est qui est en possession des vidéos, voilà. Et il faut que la vidéo elle soit du bon côté, voilà. Et pareil, on fournit pas des vidéos pour se disculper et pour inculper une autre personne. À bon entendeur.
Et du coup, on peut changer de sujet
Ouais, je pense que c'est bon. Du coup, on voulait revenir sur les histoires de colis de Noël.
Moi, je voulais surtout revenir sur Abdelrazak parce que ça fait la suite. Tu vas voir le lien. Non, sérieux, parce que Abdelrazak, je pense que vous en avez entendu parler. On en a parlé plusieurs fois, en tout cas ici. C'est ce jeune homme incarcéré à Bapaume qui se, comment dire, scatifie.
C'est en fait, ouais, il raconte, y a une lettre de Salette qui est dans le dernier journal. Où il raconte qu'en fait, il s'est pris une grosse pression des matons et que ouais, suite à ça, il s'est scarifié.
Alors, je vais vous dire comment on a été en lien avec ce jeune homme. Alors, il faut savoir qu'il est algérien, qu'il parle très peu le français, qu'il ne sait pas écrire, effectivement, et que c'est grâce à des co-détenus qui ont écrit cette lettre qui a été dictée par lui. Suite à ça, nous avons écrit un courrier à l'ADI, aux droits de l'homme, patati patata, et les droits de l'homme se sont déplacés.
Défenseur des droits.
Voilà. Sans traducteur. D'accord. Le fait que... Donc je me demande comment elle a pu ou ils ont pu communiquer avec Abdelrazak, puisqu'il parle... très peu le français, et il en a conclu que en appelant la sœur d'Abdelrazak, en lui demandant si la lettre qui avait été écrite n'avait pas été écrite par elle-même. En gros, c'est comme si mon proche se fait un gros problème en détention et m'appelle et me dit « c'est pas vous qui avez écrit la lettre ?» Alors d'une part, c'est pas ton rôle, des défenseurs des droits de l'homme, voilà pourquoi je voulais en venir et que ça faisait le lien avec l'OIP. C'est pas ton rôle. De deux, il aurait peut-être fallu un traducteur. De trois, aujourd'hui, c'est non-insistance en personne en danger parce que Abdelrazak a essayé de se pendre, qu'il était au mitard, qu'il a été vu par un psychiatre qui a ordonné immédiatement sa sortie du mitard parce qu'il n'était pas compatible avec, ce lieu disciplinaire. Il est aujourd'hui à l'isolement. Il est en danger. Nous sommes le 4 décembre. Abdelrazak est toujours en vie. Et que s'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera de la faute de cette directrice qui ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant puisque nous lui avons écrit. Ce sera la faute de cette SPIP qui n'aura pas écouté la sœur d'Abdelrazak qui l'a appelée il y a deux jours et qui devait la rappeler et qui ne donne pas signe de vie, donc qui lui traduit ce silence par on s'en fout.
Ouais, déjà, la sœur, elle avait raconté les galères qu'on leur avait mis pour les parloirs.
Exact.
Comment, en fait, parce que dans la lettre, il raconte aussi que c'était déjà la galère, que lui, il avait déjà essayé d'utiliser cet outil-là, là, l'outil de l'automutilation, pour faire un vrai appel au secours et qu'on prenne enfin en compte ce qu'il a à dire, quoi, sachant que c'est là, avec les galères de la langue, de tout ça. Et il l'avait déjà laissé quasiment crever, quoi, en fait, suite à ça. Et que là, c'est la même chose qui est en train de se passer.
Là, c'est puissance 1000. C'est que ce même contrôleur a conclu qu'en fait, son seul problème, c'est que sa famille lui manquait. Il faut savoir que ce n'est pas sa première année de prison à Abdelrazak, puisqu'il a effectué 4 ans à Sequedin où il n'y a aucun rapport, où il n'y a aucun souci, où il n'y a aucune... J'ai un problème avec
scarification.
Ce mot de scarification. Et où il n'y a jamais eu de souci comme ça, de suicide. Le seul problème qu'il y a, c'est à Bapaume. Il n'est pas bien. Il demande un transfert. Il est où le souci ? Il y a 11 mecs qui sont montés sur les toits. Vous les avez transférés. Vous en avez transféré 4 le lendemain. Pourquoi vous faites pas, vous agissez pas, quoi ? Je ne comprends pas. Vous attendez quoi ? Un drame ? Et on ne le laissera pas faire sans rien dire. C'est clair.
Ouais, en fait, c'est au contraire, quoi. Enfin, en fait, on sait pourquoi ils veulent pas réagir et que c'est pour montrer à quel point ils ont tout pouvoir. Juste pour rappeler que, par exemple, à Condé, à Vendin et dans d'autres prisons, les seuls moyens d'obtenir des transferts, pour l'essentiel des prisonniers qui y sont, c'est d'avoir un transfert disciplinaire. Et c'est ce que tu racontes, là, c'est la même chose pour Bapaume. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a clairement besoin de son transfert, qui est... Je pense qu'elle a fait tous les recours possibles et inimaginables malgré toutes les galères de langue et tout, qui a montré ce que... Enfin voilà. Et eux, ils préfèrent... En fait, eux, ils attendent qu'ils fassent un truc qui leur permette de faire un transfert disciplinaire pour pouvoir lui refoutre de la peine, pour pouvoir continuer à l'enfermer et à envoyer un message à tout le monde, quoi.
On voulait aussi... parce que là, le problème, c'est qu'on est un peu pressé sur le temps, malheureusement. On a tellement de choses à dire et très peu de temps. Donc on voulait parler quand même, dire, on en parlera plus la semaine prochaine d'Abdelrazak. C'était vraiment pour laisser une trace, pour dire qu'aujourd'hui, il est vivant et que si l'administration pénitentiaire laisse faire, nous sommes le 4 décembre 2020 et que ce sera l'entière responsabilité de cette madame, la directrice. On va dire son blase.
Ouais, on voulait juste donner vite fait des nouvelles de l'infâme pour dire que là, bah, du coup, à Vendin, il continue de lui mettre de la pression, de tout faire pour essayer de le faire qu'écra, de l'empêcher d'avoir des contacts avec ses proches qui sont dehors. On donnera plus de nouvelles la semaine prochaine, mais voilà, on sait que tu captes pas trop, que c'est la galère, mais si ça t'arrive par la rediffusion à Arras, bah, beaucoup de force à toi, poteau. Voilà, on sait qu'ils t'auront pas comme ça, mais voilà, en tout cas, ils sont en train de mettre le paquet sur sa gueule. Et du coup, pareil, s'il y a des gens qui sont motivés pour lui écrire, il continue de demander. Ça lui a fait plaisir, les dernières lettres qu'il a reçues.
Voilà. Ouais, pour dire, parce que c'est en fait la même histoire, c'est qu'en fait, ce qu'il raconte Abdelrazak, c'est que lui, il voulait pas du tout aller à Bapaume, c'était son dernier choix, et que le mec de Sequedin a fait exprès de l'envoyer là-bas, en le sachant très bien. Et l'infâme, c'est exactement pareil. Il voulait pas du tout aller à Vendin et il s'est tapé un transfert. Enfin voilà, sans être prévenu, sans être notifié, sans que pouvoir prendre toutes ses affaires et vers une tôle qu'il avait pas du tout demandé, sans aucune justification. Ouais.
J'en connais pas. Beaucoup, oui, personne qui demanderait Vendin.
Voilà, non, mais sans aucune justification.
C'est comme si tu demandais d'aller à l'autre. À l'autre, je sais pas si je dis le nom. À l'autre, celui qui a un nom de flic.
Tu veux dire qu'on est sur Sarthe ?
Ouais. Coucou les copains.
Non mais du coup c'est ça, enfin gros c'est pareil que pour Fabrice qui d'ailleurs on l'a dit la semaine dernière mais il a été reprolongé de 6 mois son isolement, c'est la même chose, ils ont fait miroiter à l'infâme pendant des longs mois, la question
est transférée
à Poissy, Et finalement, ils lui ont mis un transfert disciplinaire sans raison et il l'envoie à Vendin. Et depuis, ils lui mettent la misère alors qu'en vrai, il est resté hyper calme. Quoi. Ils essaient juste de le faire qu'écras. Donc voilà. Bref, plein de force poteau. On continuera de donner des nouvelles très vite.
Peut-être qu'on peut donner des nouvelles du journal. Voilà. On est en train de constater qu'on a tout un dossier sur les morts en prison et que, comme par hasard, dans l'endroit où est-ce qu'on parle de ces morts, le journal n'a pas l'air de rentrer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire, ça fait déjà plusieurs retours qu'on a. Mais donc si vous avez part sur le journal, prévenez-nous au maximum et on va en tout cas lancer une petite bataille pour que ça puisse rentrer et commencer à les envoyer par accusé de réception pour avoir la preuve que c'est gardé à la fouille et puis après on fera ce qu'on doit faire. On rappelle en tout cas que on n'a pas le droit de saisir un journal de la sorte, voilà, et que ça doit être notifié si c'est gardé à la fouille. Voilà, et donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer les refus, enfin les notifications et ce genre de choses. Voilà, ça pourra nous aider.
Un petit mot vite fait sur les colis aussi, parce qu'on en parlera plus la semaine prochaine, mais c'est super important parce qu'avec les normes sanitaires, c'est une vraie galère. Les colis vont être gardés 48 heures, je crois. Pas possible de rentrer tout ce qu'on veut et tout ce qu'on attend toute l'année, donc surtout un bon steak.
Parce qu'en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont prendre le colis, ils vont le laisser de côté, bien sûr pas au frigo pendant 24 ou 48 heures, et seulement après, ils le donneront.
C'est ça. Donc, il n'y aura pas de bon steak, il n'y aura pas de bon plat cuisiné avec amour de votre famille. Et nous aussi, en tant que proches, on attend que ça, de vous faire un kiff en détention. Et donc, effectivement, ça émeut beaucoup de personnes, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ça peut paraître tellement rien pour certains, mais c'est tellement beaucoup pour nous qui connaissons trop ça. Et donc, il y a quelques rébellions qui commencent à s'effectuer à l'intérieur, des refus de remontée de promenade, des blocages. Voilà, on s'est battu des années, enfin nos ancêtres, nos parents, nos proches se sont incarcérés à l'époque dans les années 70, se sont battus pour avoir obtention de ces colis. C'est 5 kilos, c'est pas grand chose déjà, c'est vraiment pesé sur le tas et donc voilà, on en reparlera plus la semaine prochaine, mais en tout cas force, courage et détermination, et j'espère qu'au moins vous aurez ce que un minima, quoi.
Ouais, puis juste pour dire que c'est des colis qui devraient avoir lieu tout le temps, voilà, ça. Et pas juste à Noël.
Pas juste à Noël et pas que pour certaines religions.
Ouais, et puis il y a le truc de, n'hésitez pas à relayer, à nous faire tourner des infos, là, si vous voyez des résistances à l'intérieur comme à l'extérieur. On essaiera d'en parler du coup plus longtemps, donc il ne faut pas hésiter là pendant la semaine. Peut-être qu'on passe un peu au...
Au coucou.
Ouais.
Yaka qui passe un coucou aux trois du QI de Saint-Maur, qui leur dit « Parlez-vous les gars ». Donc voilà, un coucou à Serge, désolé pour les petites merdes techniques, parce que je me suis fait gronder il n'y a pas longtemps au téléphone.
C'est bien mérité, moi je suis d'accord avec toi.
Donc voilà.
Un grand bisou et une grosse pensée à Ouria, à Martial, à... J'espère que tu m'entends, copine, à Florie en tout cas. Tu te reconnaîtras, je n'ai pas besoin de dire ton blaze. Et surtout, on m'a demandé de tes nouvelles et on espère que t'as été accueilli par les filles et que tu vas bien. Voilà.
Ouais, on voulait passer aussi un gros big up du coup à l'infâme. On pense toujours à Watt, à Fabrice, dont on essaiera aussi de donner plus de nouvelles dans les prochains temps. Au copain qui est à Fresnes, on t'oublie pas. Voilà, à toutes les personnes dont on a parlé récemment dans les centres de rétention, aux proches.
À Haddad aussi et à JC.
Et à tous les prisonniers de France et prisonnières de France et d'ailleurs, force, courage et détermination. Rediffusion mercredi 8h30, il me semble. Et j'ai perdu de mémoire, c'est l'âge. À la semaine prochaine et n'oubliez pas, il n'y a pas d'arrangement.
Il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre.
J'aime le pompe et le cash, le gore et le trash. Évidemment, oui, je vis ou je crache. Quotidiennement, vois déborder d'Apache, uniquement fasciné par la gloire et les flashs. Le temps que l'on passe, les billets qu'on lâche sur des marques vraies ou fausses, mais auxquelles on s'attache totalement parano. Les frangins se déplacent jusqu'à toi, vérifie que tes chaînes sont les frères. Je m'en fous, j'ai la classe, fais tourner la place, y'a mon nom sous le port sur les bancs dans l'impasse de la vie. bière dans le sang, un mental qui la brasse, autant dire le son si t'as pas mis la basse. Suivi par la tasse, à l'allure, à l'odeur, à la trace. Fier d'avoir quitté la classe, c'est l'heure que la misère te pisse à la face. Je fais peur à l'alliance des bourgeois, peur à la science. Pas une grosse perte pour le monde, il le dit si je meurs à l'avance. Nègre et ma race, ils sont méchants, je veux brûler ce bled. Depuis mon enfant, je viens niquer la France et commencer la chasse. Du vent dans les poches, le caleçon qui dépasse.
Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre.
Entre deux peines, la tristesse est place à la haine. Gros, je coule dans les abysses comme les globules rouges dans les veines. Coincé dans ses activités où l'espérance est vaine. J'arrête pas de remplir le casier, j'ajoute des chaînes à mes chaînes. Cousin, j'ai passé toute mon enfance à me faire ouvrir des coffres et des caisses. Mon succès fut mitigé, en jugé par les années que j'ai dû passer au frais. J'ai vu mes petits frères se faire fumer par des bleus qui poussaient le zèle à l'excès. Plus jamais je monte sur une affaire brolique pas chargée et l'art du tir pour de vrai. Smith blanc, civil noir, même plus de suspense quant à la tragique issue. Ici on a le pire des statues, être noir c'est comme fumer, ça tue. Mourir d'un acte héroïque, survivre comme un lâche. Story, braquage, séquestre, tu auras bandit, prison, cercueil, suite, niagique.
Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. C'est la nuit, il est 3h, on est encore dehors, les voisins rêvent de nous faire taire. Convaincus de pas faire d'erreur, on prend pour un trésor des rues où y'a pas de repère. Le plus grand big graveur, mais tout le monde d'accord, ici son mode de vie est exemplaire. Vu que ça rase les professeurs, les cours c'est mort, j'arrive à retripler ma première. Personne ne prend des couleurs à l'heure où on sort, c'est à la lumière des lampadaires. Il y a des biaveurs qui ne mangent pas de porc, rien à voir avec un conflit identitaire. Réalisateur d'un climat hardcore, on matait les films de Schwarzenegger. Comme des sprinteurs, on bat des records, à l'âge où faire des conneries peut te rendre fier. Black, blanc et beurre, on est tous dehors à goûter cette vie qui a le goût de la galère. Relève les compteurs, regarde nos corps, frère, on était trop jeunes pour toute cette colère. Petit voleur, les bourges font du sport, on rentre dans le gymnase, taper les vestiaires. C'est notre secteur, tu te crois fort, en deux temps, fils de timpe, on te nique ta mère.
Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre. Mineur dans la peau de Minotaure, il fallait un labyrinthe, on a eu le terre-terre.
Yeah. Kazé, Pete James.